Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Lecture par tous, c'est parti pour un nouveau numéro. Alors, l'animateur espère aujourd'hui qu'il ne va pas péter les boulons. Pourquoi ? Ah ben, pourquoi ? Parce que à ma gauche, j'ai Laurence, et à ma droite, j'ai Laurence. Il va falloir faire dialoguer, notamment Laurence et Laurence. Alors, c'est un peu compliqué. Allez, Laurence Bieberfeld, à ma droite, auteur de Polar, qui a publié plusieurs choses. Bonjour Laurence.
Bonjour tout le monde.
Et à ma gauche, Laurence Holvout, une habituée de Lecture par tous et des collecteurs, qui a lu attentivement et qui va nous en dire plus. Bonjour Laurence.
Bonjour Marc et bonjour à tous.
Et puis, pour avoir une pause et pas être coincé, contrôlé Laurence, il y a Paola qui est là, aussi une collectrice. Bonjour Paola.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà, qui a aussi lu Péter les boulons. Alors pourquoi Péter les boulons ? Parce que Péter les boulons, c'est le dernier titre publié par Laurence Bieberfeld. Donc vous allez tout savoir. Eh bien, je passe la parole à Laurence Holvout,
voilà,
qui va nous parler de
Péter les boulons, et donc qui est très contente de revoir Laurence Bieberfeld, puisque Laurence Bieberfeld, ce n'est pas une inconnue pour les collecteurs. Quand nous avons créé notre association, la première rencontre publique, nous avions pour invité Laurence Bieberfeld avec Anne Bourrel. Donc voilà, c'est un retour. Laurence Bieberfeld, c'est une autrice depuis 20 ans, je crois, et qui a donc une vingtaine de titres à son actif publiés. Alors principalement des romans, du roman noir, mais aussi des quelques essais. Je crois que j'en ai compté 4. Voilà, donc Laurence Bieberfeld a une écriture qui, moi, me ravit. Puisque déjà sur notre blog, si vous avez un peu de curiosité, sur le blog de Version Libre des Collecteurs, il y a déjà 4 de ces romans qui ont été chroniqués. Non, 3 romans et un essai, La femme du soldat inconnu. Et donc le 5e aujourd'hui, c'est Péter les boulons, c'est le dernier qui est sorti aux éditions Inuit. Donc le roman noir, une prédilection pour des thèmes sociaux, une prédilection pour les petites gens, pour les problèmes que rencontrent dans leur vie quotidienne les petites gens de nos sociétés. Dans la meute des honnêtes gens, c'était des jeunes squatteurs, ça se passait dans un milieu rural, dans le milieu de Cévennes. Les enfants de Lilith, c'était les tziganes, voilà. Et aujourd'hui, Laurence Bieberfeld nous invite à péter les boulons et elle pète. Là, c'est un feu d'artifice. C'est pas une catégorie, mais on pourrait presque dire toutes les catégories. Alors, pour vous donner un petit aperçu, je vais vous lire un court paragraphe. Alors, j'ai choisi le premier paragraphe du deuxième chapitre. Allez, on ne va pas faire le premier chapitre, le deuxième chapitre, pour vous mettre un petit peu en appétit. Comment toute chose ? Seul le premier pas compte. On le fait et nous voilà de l'autre côté de la frontière. Au lieu de rentrer chez moi, si on peut appeler un chez-soi un si triste séjour, je filai vers Montpellier et me rendis au squat. Je confiai mon pauvre vieux à Aminata et il fut installé en 5 sexes sur un lit somptueux de pouf et de coussins, entouré d'une volée de mioches qui se battaient pour prendre soin de lui. Donc voilà, c'est très court. On a un premier personnage, le papa. On a un deuxième personnage, Aminata. On a un milieu chaleureux, mais précaire, qui est le squat. Laurence Bieberfeld, pouvez-vous nous... On peut peut-être se tutoyer.
Oui, hein, tutoyons-nous.
En principe, ça ne se fait pas en radio, il paraît.
Mais là, c'est un peu dur, là.
Comme vous n'allez pas réussir à rester dans le mouvement, passons clairement au tutoiement, voilà. Ouais. Franc et honnête.
Voilà, donc on est dans une ambiance, on file à Montpellier. Qu'est-ce que nous allons faire à Montpellier ?
Alors,
C'est vrai que depuis très longtemps, j'ai envie effectivement de présenter sous d'autres angles les gens qui sont les plus précaires, qui sont les plus écrasés, qui ont le moins de pouvoir en fait, et qui sont toujours, qui sont toujours victimes de préjugés très très négatifs. Mais après, c'est pas le seul objet de ce bouquin. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que l'héroïne et Irène est quelqu'un de très très précaire. Elle a grandi dans des caravanes, elle n'a jamais réussi finalement à trouver une place sociale confortable. À vrai dire, elle s'en fout un peu. Mais quand même, ne pas arriver à survivre à ce point, ça finit par être plus qu'inconfortable. Ça devient vraiment terrible, quoi. Terrible. Et c'est le cas un peu de toutes les personnes qu'elle a autour d'elle, en fait. C'est un milieu, en fait, celui des plus déshérités, des plus précaires. Et moi, l'envie que j'avais, c'était de montrer qu'en fait, c'est des gens extrêmement débrouillards, intelligents, futés, riches humainement, et qu'on en a une vision, mais vraiment, on les voit comme s'ils étaient lourdement handicapés, légèrement crétins, complètement écrasés. Alors qu'en fait, les trois quarts du temps, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Hein. C'est complètement... Ça fait penser au neveu de Rameau. Hein, quand il dit, lui, toute la seule peine qu'il a prise, c'est naître. Alors que moi, pour simplement survivre, il m'a fallu, je ne sais plus comment il le dit exactement, déployer plus de génie qu'à tous les grands pour gouverner l'Espagne pendant trois siècles. Je ne sais plus comment il le dit, mais voilà, ça c'est... voilà, il y a des gens sur lesquels on a des visions très très négatives.
Donc, moi, voilà. je joue un peu comme étrangère. Et je vais direct au dictionnaire et péter un boulon, devenir fou, agir déraisonnablement. Et justement, voilà, en préparant l'émission avec Laurence, là, on se pose les questions. C'est quoi les raisonnables?
Voilà.
et voilà où la littérature intervient avec une force inouïe pour défaire et contrefaire les systèmes.
Parce que donc, pour nos auditeurs, Irène, elle pète les boulons, elle va désinguer tout ce qui se présente et qui lui marche sur les pieds de façon inconsidérée. Donc ça commence par le chirurgien qui a un peu raté et pris des libertés avec le corps de son papa et qui donc lui a enlevé 2 mètres d'intestin alors que c'était une opération bénigne. Voilà, donc elle désingue un premier boulon qui est le boulon du chirurgien. Mais après, ça se gâte et donc machine s'emballe.
La machine s'emballe. Effectivement, elle est arrivée à un stade où elle ne peut plus supporter. Et alors, au lieu de maudire les gens qui sont dans l'empiré, très haut, là-haut, très loin, elle va s'attaquer en fait à tous les petits boulons qui font que cet ordre social qui est extrêmement cannibale, qui est extrêmement oppressif, marche, roule en fait, comme dans toutes les sociétés qui sont quand même un petit peu coercitives. Il y a des gens qui font ça, qui sont juste des petits boulons. Alors je dois dire que moi, mon titre au départ, c'était No Future, Kill Them All, qui était quand même très
annoncé.
Et puis finalement, mes éditrices ont trouvé que d'abord c'était en anglais, ça faisait alors que le titre était franchement punk et poser les choses quoi.
Voilà.
Alors après, on a cherché désespérément et comme il est question de petits boulons, et de gripper des mécanismes où les petits boulons,
sont importants.
Voilà, et j'ai fini par trouver ce truc, péter les boulons, qui correspond totalement au bouquin, effectivement. Il est question sans cesse de péter les boulons, mais en série, quoi.
Voilà. Il y a une citation, une phrase magnifique. Je le prends. Il est né, il habite pas à Montpellier, bien sûr. Il habite dans son coin perdu, dans la France profonde, on va dire, de l'Hérault. Un de six endroits où on arrive parce que les loyers n'y sont pas chers et d'où on ne répare plus parce que s'ils n'y sont pas chers, c'est qu'on n'y trouve pas de boulot. Et voilà les boulots, et on est toujours entre ce qui est le système, les petits personnages d'un côté et de l'autre.
Alors là, j'ai pas beaucoup développé effectivement le fait qu'il y a des coins de banlieue, de ruraux, Alors, c'est le cas du Vigan, c'est le cas de Ganges dont il est un peu question. Parce que j'ai... J'ai bidouillé tous les mots, mais en fait, ça parle quand même de lieux assez précis. Et c'est vrai que cet arrière-pays a à peu près le profil, finalement, de la paillade, de Pissevin. C'est-à-dire qu'au niveau des revenus des gens, au niveau du taux de chômage, etc., c'est des bourgs ruraux qui ont ce profil-là. Mmh. Ce n'est pas tout à fait le même que les quartiers. Mais c'est quand même des espèces de quartiers ruraux, quoi. D'accord. Mais celle-là, je ne l'ai pas développée dans ce bouquin. Mais effectivement, sauf au tout début, où elle se retrouve là, parce que c'est pas cher. Oui.
Mais elle est un peu répatriée dans ce squat qui est multiculturel.
Ouais.
Et il y a tout le petit clin d'œil à côté de tout ce qui marche, en fait, comme un petit village.
Oui, oui. Oui.
Donc, oui, parce qu'en fait, la trame, c'est donc une serial killeuse qui se met en branle avec sa famille. Mais à côté de cette violence. Voilà, quand même, qui répond à la violence sociale, mais qui en est une autre. Il y a effectivement tout l'amour, toute la tendresse qui existe entre la famille élargie, les amis, dans le squat, etc. Et ce constant aller-retour entre les deux fait qu'on est vraiment, on est complètement emballé, on a une empathie totale avec ces horribles tueurs. et donc le jeu avec les mots. Tu parlais des. Donc, parce qu'on est à Montpellier, il y a le quartier de Selvieille, d'Aigues-Courtes, de la Paillasse, on parle de la fantaisie. Voilà, donc les gens de Montpellier.
De Montpellier.
Les gens de Montpellier devraient reconnaître, deviner des quartiers et des villages bien réels derrière.
Oui, ça c'était pour m'amuser, c'était un jeu. De même que je ne sais plus comment j'ai appelé Ganges, mais c'est Brahmapoutre, je ne sais plus quoi, tout au début, mais c'est Ganges.
Et Pic
Saint-Ours.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Saint-Ours.
Alors, donc, pendant la première partie du livre, il y a effectivement tous ces meurtres en série, on va dire. Et dans la deuxième partie du roman, on bascule un petit peu et là, on est plus dans des actions de groupe et qui se focalisent sur, autour du Pic Saint-Ours. Il y a un domaine bourgeois avec un immense parc dans lequel toute la troupe de Irène se retrouve. Et là, on bascule dans une sorte de film d'action où en fait on a affaire à d'horribles pédophiles, à moitié mafieux, où il se trame des choses vraiment pas très nettes de la haute bourgeoisie et des puissants de ce monde, où on se rend compte que l'horreur, elle n'est pas forcément, le minable n'est pas forcément là où on l'attend. La deuxième opération de ce genre, c'est aussi au sein d'une clinique, ou une clinique qui héberge des enfants autistes. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi
ouais. Alors, ça fait longtemps que j'ai un peu l'ASE dans le collimateur.
Aide sociale à l'enfance.
Oui, l'aide sociale à l'enfance dans le collimateur. C'est marrant parce que récemment, il y a un documentaire, mais on sait, quand on connaît des gosses qui ont été placés, et même on sait aussi comment ça se passe pour les... Malheureusement, pour les enfants autistes, c'est-à-dire que les parents sont très facilement dénoncés parce qu'ils sont débordés ou qu'ils veulent scolariser leur môme en milieu normal, etc. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les gosses sont quand même enlevés très facilement à leur famille. Et quand ils sont suivis, en général, ils sont suivis. Dès qu'ils sont dans un foyer de l'ASE ou dans une famille de l'ASE, ils cessent totalement d'être suivis. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de psychomotricienne, de psychologue, de psychiatre, de tout ça, parce que tout ça coûte très cher et que l'ASE ne va pas mettre du pognon là-dedans. Donc, en fait, on enlève des gosses qui sont suivis et dont les parents, de temps en temps, pètent un boulon. Mais ce n'est pas facile de vivre avec un enfant autiste. Voilà. Et souvent, s'y ajoute la précarité sociale, etc., pour les mettre dans des conditions où, très rapidement, ils vont devenir réellement complètement fous. Parce que, en fait, il ne sera absolument tenu aucun compte de leurs troubles spécifiques, quoi. C'est un exemple parmi d'autres. Alors, moi, je suis directement concernée, effectivement, mais c'est un exemple parmi d'autres. Mais plus largement, ce dont je voulais parler, c'est ça. C'est de tout cet appareillage social, ce qu'on appelle l'état social, et qui est quand même très loin de la sociale. Voilà, mais vraiment très loin, quoi. Et qui est devenu un espèce d'appareillage à la fois oppressif, coercitif, de chantage, d'humiliation, et de maintien dans la précarité, en fait, voilà, oui. Et dans la mouise la plus totale. On peut passer vraiment, garder les gens en dessous de la ligne de flottaison. Et il y a toute une façon de fonctionner qui est faite sur le contrôle, qui est faite sur des rapports quasi insultants, finalement, hein, et qui est juste insupportable. Et alors, c'est valable, effectivement, de Pôle emploi.
Alors on sent beaucoup ce mépris, le mépris.
C'est affreux, mais oui, voilà.
Après, il faut dire que ça marche parce que le style est très réussi aussi. Le feu d'artifice, c'est pas que toute cette farce, parce que comme on avait discuté tout à l'heure, je l'appellerais une sorte de farce punk. On se sent dans ces feux d'artifice. Ouais. On a la sensation, comme lecteur, parce qu'au début, on commence à sentir c'est un peu trop. Et tout d'un coup, on comprend, en deuxième, troisième degré, qu'on rentre dans une sorte de Tarantino, de coups forts. En plus, les styles et des phrases courtes, très dynamiques. Et il y a moins de descriptions, comme disait Laurence.
Oui, par rapport à des titres antérieurs où il y avait des descriptions qui étaient plus longues, plus...
Oui, oui, mais là,
on est dans l'action.
Il faut le dire, en plus pour donner les goûts, c'est pas un pamphlet qui dénonce, on en a marre, on va peut-être... Non, il y a un truc très bien construit avec des métaphores et les langages. Les langages, je veux juste dire, c'est vraiment face à la dictature du politiquement correct, votre langage, ça fait du bien. Et c'est jubilatoire aussi. Vous captez très bien les voix de ces gens qui n'ont pas des voix. Et vous les faites communiquer, mais avec une épaisseur psychologique très importante. Quand vous dites, vous voulez montrer aussi ces personnages en une dimension et vous donner leur place à cette humanité qui est souvent dans ces mondes, dans les mondes réels, n'ont pas une place. Et donc, cet exercice des langages, du style, est très réussi.
Ils sont extrêmement méprisés. Moi, je suis toujours éblouie de voir comment on peut considérer, par exemple, des gens qui ont traversé un continent à 14 ans, qui parlent 4 langues... qui se sont débrouillés pour passer à travers toutes les avanies, qui sont encore vivants et qui sont encore solides, avec un esprit très vif, etc.
Et des projets.
On va les considérer littéralement comme des déchets humains. Enfin, la société les considère comme des déchets humains, ce qui est complètement hallucinant.
Il y a un mot d'anecdote pour replonger sur les romans. Il y a les scènes où Irène est avec sa fille. Et elle boit la bière avec sa fille de 16 ans. Et la maman est juste... et épatée par l'intelligence de sa fille. Je ne sais pas si vous voulez raconter un peu cette relation, parce qu'elle est très jolie, très tendre, et en même temps, elle est dans cette farce bien construite, cette relation.
Oui, effectivement, Irène, petit à petit, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais un peu quand même, va enrôler dans sa croisade, d'abord sa famille, puis en fait plus large que sa famille, et puis finalement tous les petits vont se dire « Ouais, mais il y en a marre là maintenant. Maintenant on tire à vue, voilà, c'est tout. »
On tire à vue, et puis c'est toutes générations confondues.
Même
le bébé Antoine est mis à contribution.
Le bébé Antoine est là. Les enfants sont très présents, comme dans les... Enfin, il y a plus d'enfants dans les milieux populaires. Ailleurs, ils sont très débrouillards,
très intégrés
dans le monde des adultes. Il n'y a pas vraiment monde adulte, monde enfant. Il y a des communautés où tous les âges sont mélangés. Et donc, effectivement, oui, ils prennent leur part, les mômes, les adolescents, les mômes. Ils sont très, très débrouillards. Oui, et du coup, elle se retrouve avec sa fille et puis elle finit par lui dire, en fait, qu'elle n'en peut plus, quoi. Qu'elle s'est dit qu'à un moment, il fallait arrêter avec ça. Il fallait arrêter. Et puis sa fille lui dit, en fait, il suffit de pas y penser, quoi. En fait, il suffit de les sortir de ta tête et ils n'existent plus.
Et là, elle voit une bière comme ça, à 16 ans, et sa maman dit, ah, elle a une bonne descente, cette fille.
Et la gamine dit ça, remarque, je crame pas trop, mais elle vient elle-même d'avoir un léger dérapage, quoi, et elle s'en explique à sa mère. qui tout de suite la déculpabilise en lui disant « non mais c'est pas grave ». Enfin, en tout cas, par rapport à ce que moi j'ai fait, c'est pas grave. Quoi. Et elle parle un peu de, voilà, de la façon de se débarrasser des gens qui les écrasent, qui leur enfoncent la tête dans la boue, etc. Bon, alors moi, j'encourage personne au meurtre, hein, que les choses soient claires. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais enfin, quand même, en parler, ça peut faire du bien. Ouais. Voilà.
Oui, alors je me demandais, Paola évoquait le côté, on ne va pas être dans du politiquement correct sur non, le discours, quoi. Donc j'entends ce souci de libérer la parole pour ne pas se laisser contraindre. Mais j'entends aussi, peut-être pourriez-vous nous en dire un petit peu quelque chose, que ça joue sur le style de la langue aussi. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai l'impression de deviner qu'il y a un style pas littérairement correct forcément, mais peut-être juste, mais pas forcément convenu
oui.
ou correct.
Mais enfin ça après dans le.
Alors là, l'importance du style pour vous, pour c'est important de ce travail sur le style pour raconter vos histoires.
Oui, toujours. Il faut vraiment que le style soit adapté. Pardon. Il faut vraiment que le style soit conforme à ce qu'on raconte, quoi. Et là, en l'occurrence, comme c'est très rock'n'roll, il ne faut pas, effectivement, les longues descriptions ne sont pas... voilà. Elles ne sont pas opportunes, on va dire.
Oui, le style proustien ne serait pas très adapté.
Ah, moi, il est adapté à d'autres choses, mais pas à ça. C'est des choses... Là, ce n'est pas un bouquin contemplatif, assez contemplatif, comme j'ai pu en écrire pas mal, en fait. Hein. Et j'aime beaucoup cette veine-là aussi. Mais là, ce n'est pas, c'est pas le sujet. Enfin, ce n'est pas l'endroit, quoi, on va dire.
Là, tout le monde a un sens de la répartie absolument extraordinaire.
Oui, oui. C'est un bouquin qui est très ping-pong. Ouais,
voilà, on se prend à pouffer de rire, surpris par des tirades ou des traits. Et moi, je l'ai lu en société. Il y avait des gens autour de moi et rien que le fait que je me ris à chaque page a encouragé et a donné très, très envie à mes amis de le lire. Parce qu'effectivement, c'est un livre où on s'amuse beaucoup et le style y est pour tout, en fait, on va dire.
Ça serait un livre qui serait censuré dans les bibliothèques, quelques bibliothèques aux États-Unis. Maintenant, il y a des lecteurs qui censurent. Parce que là, franchement, c'est pris en premier degré, comme on le font de plus en plus dans la littérature, des marketing, des bonheurs. Là, les bonheurs, ils ne les voient pas. Par contre, nous, en tant que lecteurs qui pourront aller plus loin, deuxième, troisième degré, on peut vraiment retrouver une force libératrice.
Après, c'est un bouquin très difficile. Enfin, moi, quand elles m'ont dit qu'elles allaient le publier, je me suis dit waouh, parce que. Et je me rends compte qu'en fait, c'est un bouquin qui peut passer très mal, parce que Irène se révolte quand même, et tous les gens qui sont écrasés se révoltent non seulement contre le chirurgien, mais contre des assistantes sociales, des éducateurs, des psychiatres, des psychologues. Et voilà, tous les gens qui les encadrent finalement, des agents de la CAF, des gens comme ça. Des contrôleurs de tram. Pardon, excusez-moi.
La description des contrôleurs de tram, pour qui les connaît, c'est assez bien vu.
Ah, voilà. Oui. Je pense que ça existe dans d'autres villes, mais quand même Montpellier, pour ça, c'est pas mal. Bref. Donc on est lu par beaucoup de gens qui sont comme ça qui vont dire non, mais c'est pas.
Mais alors, est-ce que ce serait juste de dire, j'ai l'impression que en entendant là. Que les personnages dont vous parlez sont tous d'une certaine façon piégés.
Oui, complètement.
Ils sont ce qu'ils sont, mais peut-être ils sont ce qu'ils sont parce que les circonstances sont ce qu'elles sont aussi. Voilà. Contrôleurs de tram ou autre. Hein.
Mmh. Oui, ils sont piégés et en même temps, ils ont des comptes à rendre aussi. Parce que finalement, si on regarde la façon dont fonctionne... ce qu'on appelle l'état social, enfin, qui pour moi n'est pas du tout un état social, ça permet à une classe, petite classe moyenne, on va dire, de vivre en entretenant littéralement la misère des plus précaires, des plus déshérités, de ceux qui jamais ne sortiront la tête de l'eau. On peut le voir comme ça. Hein. Certains, d'ailleurs, je me rappelle la réflexion d'un Africain qui venait en France et qui dit, enfin, il n'en revenait pas, quoi. Il dit, comment ça? En fait, on empêche les gens d'être débrouillards, on les empêche d'avoir des cabanes, on les empêche d'aménager leur bidonville, on les empêche de se débrouiller, d'avoir des petits boulots, etc. Parce que tout est vraiment sabré, tout est très, très réprimé. C'est un des pays, la France, où tout est réprimé, quoi. Quelqu'un qui veut faire un petit boulot ne peut pas le faire. Et il se débrouillerait. Les gens sont très, très débrouillards. Quelqu'un qui veut monter sa cabane parce qu'il n'a pas les moyens de payer un loyer ou de s'acheter quelque chose dans un coin où ça ne dérange personne. Non, il va tout de suite, on va la lui détruire, on va le chasser toujours plus loin, etc. Donc, en fait, on empêche les gens de se débrouiller et on les met sous la coupe, finalement, de ce système social qui consiste quand même à les tenir par la peau du cou, quoi.
Voilà. Donc effectivement, il y a une partie caricature dans le récit de Péter les boulons. Et qu'effectivement, on a toujours des personnes qui, dans une fonction donnée, vont adorer exercer leur petit pouvoir de façon un peu sadique. Et puis d'autres qui auront une vision un peu plus humaniste et un peu plus ouverte de leur job. Donc là, on est vraiment effectivement dans la partie... mon petit pouvoir, je t'écrase, et bah, puisque tu m'as écrasé, je te rends l'appareil, quoi. Voilà.
Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, bon, je viens du travail social aussi, donc j'entends des choses du côté de la littérature et du récit et des histoires que dit la sociologie critique, qu'a dit Foucault il y a des années en son temps quand il parlait des on est dans une société disciplinaire. Voilà, ce que vous venez d'évoquer, c'est bien ça, quoi. Il faut passer par des procédures disciplinaires, peu importe la créativité, quoi. Sinon, prison ou marginalisation, expulsion, enfin, tout ce qu'on voudra, quoi. Voilà, donc bien, merci beaucoup Laurence. On arrive au bout de l'émission. On aurait bien continué cette conversation, mais nous arrivons au bout du temps qui nous est imparti.
Et donc, comme on aimerait bien continuer la conversation, il est fort probable, suivez notre actualité, que l'on organise une rencontre publique avec Laurence Bieberfeld, qui nous permettra de discuter plus longuement et de répondre à des questions plus larges.
Et voilà, au lieu de péter les boulons devant votre poste, vous pourrez les péter en direct.
On pourra les péter tous ensemble. Ah, voilà.
Merci bientôt à Montpellier.
Voilà, bientôt à Montpellier. Bon, voilà. Merci beaucoup.
Merci Laurence Bieberfeld. Merci Paola Cadenas et Laurence Holvout.
C'est un plaisir.
Merci Rongemaille à la technique. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres lectures. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.